Alors là, on va se tourner vers une autre université, si vous le voulez bien, Sylvie Retailleau, la faculté de médecine de Montpellier.
Oui, bonjour, professeur Thierry Lavabre-Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes par téléphone, vous êtes professeur d'hématologie, président du comité de pilotage justement des 800 ans de la faculté, délégué de l'université au patrimoine. Alors, votre université a été fondée, écoutez bien, c'est réel, le 17 août 1220 par un légat du pape. Vous représentez aujourd'hui la plus ancienne université de médecine au monde. C'est vrai ça?
Et bien sûr, nous sommes donc, comme vous venez de le dire, nous avons été fondés le 17 août 1220 par l'octroi de statut par le légat du pape, exactement symétrique de ce qui 5 ans auparavant avait été fait à Paris pour les théologiens, là aussi par un légat du pape, et créant donc une université au sens médiéval du terme, c'est-à-dire une corporation de maîtres et d'étudiants autonomes finalement sous l'autorité à l'époque de l'Église. Bien sûr, les choses ont bien changé depuis. Mais qui, donc, depuis 800 ans, a continué sans interruption à enseigner et à pratiquer la médecine.
Professeur Thierry Lavabre-Bertrand, on vous entend. Vous êtes à Montpellier, là, vous êtes au sein de l'université?
Oui.
Parce qu'il y a comme un petit écho. Vous êtes où dans l'université?
Je suis un peu en dehors de l'université.
D'accord.
Mais
vous êtes en tout cas dans le campus.
Je suis sur Montpellier, oui, bien sûr.
Alors, 800 ans d'histoire. Au début, il s'agissait de médecins et d'étudiants. Donc, c'était une université de médecine pure. En 1289, le pape, il est quand même très avant-gardiste, hein, il essaye de fusionner, vous voyez, Sylvie Retailleau, déjà on parlait de fusion en 1289, il essaye de fusionner médecine, droit et art, mais les médecins restent à part jusqu'à la Révolution. C'est pendant la Renaissance qu'il commence à se passer des choses chez vous.
Alors en fait, il se passe des choses d'emblée, hein, c'est-à-dire que effectivement, comme vous le dites, en 1289, le pape va essayer, mais en fait, ça a été un peu un échec, de fusionner les enseignements de médecine, qui étaient des enseignements officiels, les enseignements de droit, qui étaient un peu moins structurellement organisés, puisqu'on appelait les enseignements des arts, c'est-à-dire les arts libéraux, la grammaire, etc. Et en fait, les médecins vont décider de rester finalement entre eux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils se replient, mais ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils ont déjà une force de frappe suffisante pour attirer à eux finalement beaucoup de gens qui s'intéressent aux sciences en général, qui ont de près ou de loin des liens avec la médecine, et je pense notamment à toutes les sciences naturelles. Mmh. Et c'est tout à fait logique que ce pôle d'attraction médicale ait pu fédérer par exemple des botanistes, et en n'oubliant pas qu'en 1593, Henri IV va fonder le premier jardin botanique officiel de France, donc qui est plus ancien que celui de Paris, et qui est encore
au sein de la faculté
aujourd'hui.
Au sein de la faculté, surtout dirigé par des élèves extrêmement renommés. J'ai lu que Rabelais s'y était inscrit en 1530.
Voilà, Rabelais est venu s'inscrire en médecine en 1530, et après il est au bout de quelques mois, enfin il est reparti quelques temps sur Lyon, il est repassé en 1537 pour passer finalement sa thèse. Il a été un des bouts en train de la corporation étudiante, et d'ailleurs dans ses œuvres on retrouve des traces de tout ce qu'il a fait sur Montpellier, et il a été très très actif bien sûr dans le monde étudiantin de l'époque, et aujourd'hui encore en souvenir de cela, lorsque les étudiants passent leur thèse, ils revêtent ce qu'on appelle la robe de Rabelais, puisque nous avons quand même tenu à garder cette tradition, avec des professeurs en toge et des étudiants qui revêtent donc une tenue traditionnelle, qui est la robe de Rabelais, dessinée d'après les costumes des étudiants de l'époque.
Alors, 800 ans après, le Covid est arrivé. Aujourd'hui, 49 000 étudiants au sein de votre faculté de médecine. Vous avez mis en place des assistants de prévention au sein de la fac de médecine. Très utile, hein, depuis le début de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous avez mis en place très concrètement?
Oui, c'est-à-dire que, en fait, du point de vue institutionnel, bon, l'université de médecine telle qu'elle était décrite jusqu'à la Révolution a subi après la Révolution toutes les vicissitudes statutaires qu'ont eu les structures d'enseignement supérieur. Mmh. Donc, ont été intégrées dans l'université impériale d'abord, et jusque dans les années 1870, il n'y aura que 3 facultés de médecine de plein exercice en France, Paris, Strasbourg et Montpellier. Et puis, aujourd'hui, donc, la faculté de médecine est une des composantes de l'université de Montpellier. Mais l'université de Montpellier regroupe aussi des enseignements de droit, de pharmacie,
bien sûr, là-bas
de sciences,
aussi,
etc.
On s'est regroupé.